إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شرح الشيخ سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله. ومزلنا في كتاب الحدود، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبول أو دبر. قال الشيخ: فالزنا هو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين. نعم. والوطئ في الدبر هو اللواط، والزنا من أكبر الكبائر. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن لا يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، والعياذ بالله. نعم. donc on poursuit بإذن الله عز وجل l'explication du livre منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى. Et nous sommes toujours en train d'étudier le chapitre des peines légales, yani al-hudud. طيب. نعم. Donc il dit ici l'auteur, rahimahullah, فحد الزنا, donc la peine légale de la fornication, puis il va ici décrire ce qu'est justement l'acte qui est considéré comme étant zina, de la fornication. Il dit: c'est tout acte honteux, hein, tout acte débauché, fi quburin ou dubur, que ce soit par devant ou par derrière. D'accord ? Par devant ou par derrière. Na'am. Fa az-zina, donc la fornication, dit le cheikh Suleyman, hafidhahullah, c'est tout rapport sexuel qui s'est produit dans un contexte hors mariage. Contexte hors mariage, un contrat de mariage valide, authentique, ou hors contrat de mariage, qu'on appelle shubhatun nikah, qui possède un vice dans le contrat de mariage qui fait que le contrat ne sera plus valide et annulé. D'accord ? Mais c'est un contrat de mariage dont on pensait qu'il était valide au départ, mais on s'est aperçu plus tard qu'il y a un vice dans le contrat de mariage qui n'était pas connu, d'accord, qui fait que le contrat sera annulé. Taïeb, c'est ce qu'on appelle shubhatun nikah. Donc, on répète, Ezzina, la fornication, qu'est-ce que c'est réellement, légalement? Eh bien, c'est tout rapport sexuel qui s'est produit dans un contexte hors mariage valide ou hors contrat de mariage qu'on appelle Shubhatou Nikah, dont on pensait qu'il était valide, et également qui s'est produit hors contexte, yani de la milk yamin, c'est-à-dire la femme esclave. D'accord? La femme esclave. Voyez. Donc, si l'acte sexuel s'est produit dans un contexte, bien sûr, de mariage valide, ce n'est pas de la fornication. Si l'acte sexuel s'est produit dans un contrat ou pendant un contrat de mariage, qui a été, après on s'est aperçu qu'il y avait un vice dans le contrat de mariage là, donc la personne ne savait pas que le contrat n'était pas valide, que le mariage n'est pas valide, il n'y a pas de zina non plus. Vous voyez, dans ce cas-là. Et bien sûr, également, si le maître a des rapports sexuels avec son esclave, également, ce n'est pas de la fornication. Il dit le cheikh, el wat'u, donc le rapport sexuel également fait dubour par derrière, ou al liwat. Cela rentre dans le terme al liwat, l'homosexualité. Wazina, donc la fornication, bien sûr, est parmi les péchés les plus graves, les péchés majeurs. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset de la surat al-Isra, le verset 32, il dit Allah Jalla wa Ala à propos justement de ce péché majeur. N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude et une voie mauvaise. Également le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui a dit, je dis au messager d'Allah, quel est le péché le plus grave? Et le prophète de répondre, alayhi salatu wassalam, que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Je dis alors, ensuite, après ce péché-là, quel est le péché le plus grave? Il répondit, que tu tues ton enfant pour ne pas qu'il mange avec toi. Puis je dis, et ensuite, quel péché? Et le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, que tu forniques avec l'épouse de ton voisin. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Il dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, après le meurtre, je ne connais aucun péché plus grave que la fornication. Après le meurtre, je ne connais aucun péché plus grave que la fornication. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Tayyib. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah, in kana muhsanan. فالمحصن في باب الزنا هو الحر الذي تزوج حرة ووطئها في الفرج وهما حال هذا النكاح بالغان عاقلان فإذا نقص وصف من هذه الأوصاف فليس بمحصن رجلا كان أو امرأة. Puis il dit ici, l'auteur, donc on va décrire maintenant la peine légale réservée au fornicateur ou à la fornicatrice. In kana muhsanan. Si la personne ayant commis cet acte-là est ce qu'on appelle muhsan. Donc c'est un terme technique, on va garder comme ça, muhsan. Donc muhsan, c'est quoi un muhsan? Dans le chapitre ici que l'on étudie, qui est celui de la fornication, un muhsan, c'est une personne libre qui a épousé donc une autre personne libre. Tayeb, el-hur, el-lati tazawwaja hurra. L'homme libre qui a épousé la femme libre et qui a eu un rapport sexuel avec elle par devant. D'accord? Par, yani, le sexe de la femme. Et ces deux personnes se sont mariées, l'une avec l'autre, et ayant consommé donc le mariage à travers ce rapport sexuel par yani, el farj, donc le sexe féminin, eh bien, au moment de leur mariage, eh bien, yani, sont baligha aqilan, yani, c'est-à-dire pubères et doués de raison. Il faut qu'ils soient les deux pubères et doués de raison. Taïeb. Donc, si il vient à manquer une de ces descriptions, parmi celles que l'on a données, la personne n'est pas considérée comme étant muhsan, que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Un homme ou une femme. Donc, quelqu'un qui a eu des rapports sexuels, mais pas par el-farj, yani par le sexe féminin, eh bien, il n'est pas considéré muhsan. Si la personne n'est pas douée de raison, lorsqu'elle a eu ce rapport, elle n'est pas muhsan. Si elle n'est pas pubère, elle n'est pas muhsan. Donc il faut que toutes ces conditions dans la description de la personne soient réunies pour qu'elle soit muhsan. Parce que là, on va parler donc de la peine légale qu'Allah tabarak wa ta'ala a réservée à cette personne-là que l'on dit muhsan. طيب نعم فهذا التعريف يتضمن أمورا ثلاثة. الأول حصول الوطء منه في القبل فخرج به، عدم الوطء أو الوطء في الدبر. donc à travers cette définition là de المحسن nous voyons qu'il y a trois points importants pour que la personne soit muhsan. Le premier point est qu'il y ait eu donc un rapport sexuel de sa part, fil qubul, yani par devant, c'est-à-dire le sexe féminin. Ça veut dire que la personne ne sera pas muhsan si elle n'a pas eu de rapport sexuel, même si elle a contracté un acte, un contrat de mariage avec la personne, mais elle n'a pas eu de rapport sexuel avec cette personne-là. Donc, tant qu'elle n'a pas de rapport sexuel avec elle, elle n'est pas muhsan. Et également, celui qui a eu un rapport, mais par derrière. D'accord? Elle ne sera pas muhsan également. ثانياً أن يكون الوطء في نكاح صحيح وخرج به الوطء في نكاح فاسد. Deuxièmement, il faut que ce rapport sexuel ait été fait dans ou après un contrat de mariage valide. D'accord? Donc si l'acte sexuel a été fait après un contrat de mariage qui a été annulé ou qui est annulé à cause d'un vice qui existait sans que on en ait connaissance au moment du contrat de mariage, qui fait que le mariage sera annulé, eh bien la personne ne sera pas également muhsan. Il faut que ce soit un acte de mariage valide. Muhsan, eh bien c'est, on est en train d'en parler justement, on est en train de le décrire là, muhsan. D'accord? Donc on a dit, muhsan c'est la personne, un homme libre qui a épousé une femme libre, et il y a eu un rapport sexuel avec elle par devant, et ils étaient tous les deux pubères et doués de raison. C'est cela les muhsan. ثالثا الكمال في كل من الزوجين بأن يكون كل منهما بالغا عاقلا حرا وخرج به الصبي والمجنون والرقيق. Et enfin troisièmement, il faut que les deux personnes soient ou possède plusieurs caractéristiques qui sont la puberté, la raison et la liberté, le fait qu'il ne soit pas esclave. D'accord? Ça veut dire que si la personne n'est pas encore pubère, elle n'est pas muhsin, même si elle remplit les deux premières conditions. Si la personne n'est pas douée de raison, elle ne sera pas muhsin. Et si la personne n'est pas libre, c'est-à-dire esclave, et si elle est esclave, elle n'est pas également muhsin. Est-ce que c'est clair? Taïb. Donc, dit le cheikh, l'auteur, si la personne est muhsin, fait partie des muhsin. Donc, dit l'auteur, c'est celui qui s'est marié, il y a eu un rapport sexuel. Et que les deux sont libres et mukallaf, c'est-à-dire responsables religieusement. Et bien celui-là, s'il commet la fornication, s'il commet l'acte de la fornication alors qu'il est muhsan, eh bien, il devra être lapidé jusqu'à la mort. Donc la peine légale pour celui-là, s'il commet la fornication, d'accord, ce sera la peine capitale à travers rajm. La lapidation. Encore une fois, bien sûr, ces peines ne peuvent être exécutées et déclarées et appliquées seulement par les dirigeants d'un État légitime, d'un pays musulman. D'accord? C'est bon? Comme il existe aujourd'hui en Arabie Saoudite, mathalan. Les pays dans lesquels la charia est appliquée. D'accord? Non. Ce n'est pas une personne lambda d'un peuple qui va elle-même appliquer ces peines légales-là sur les gens, ses voisins. Ou... D'accord? L'islam, c'est l'ordre. L'islam, c'est l'ordre. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas le désordre. Est-ce que c'est clair? إذن فهذه قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى يعني طيب قال الشيخ يعني يرجم بالحجارة حتى يموت لأن عمر رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ورعيناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف أخرجه البخاري ومسلم. J'ai le Cheikh Suleyman, hafidhahullah ta'ala. Donc, la peine légale de ce muhsan, s'il commet la fornication, eh bien, c'est qu'il est lapidé par des pierres, et ce, jusqu'à la mort. Cela car Omar, radiallahu anhu, un jour, a fait un discours et a dit, certes, Allah, tabaraka wa ta'ala, a envoyé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec la vérité. Il a descendu sur lui, le livre. Et parmi ce qu'il a descendu, yani, sur lui, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le verset de Ar-Rajm, le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, nous l'avons compris, nous l'avons mémorisé, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé. Et nous avons lapidé après lui. Puis il dit Omar, et je crains que quand les années passeront, d'accord, eh bien que quelqu'un un jour dise, nous ne trouvons pas le verset de la lapidation dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, ils s'égareront en délaissant une obligation qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait descendue. Et la lapidation, donc, c'est quelque chose qui doit être appliqué sur celui qui a commis pardon, la fornication parmi les hommes et les femmes, si ils sont muhsan. D'accord? S'ils sont muhsan. Lorsque les preuves ont été établies contre eux, ou il y a une grossesse avérée, donc une grossesse qui fait suite à l'acte de fornication, d'accord? Ou à un aveu, yataraf, un aveu de la part du fornicateur ou de la fornicatrice. C'est bon? Donc ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah. ثم قال هنا فهذه شهادة من عمر رضي الله عنه وكان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بحضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد. فهناك فائدة شروط وجوب الحد في الزنا ثلاثة شروط وجوب الحد في الزنا ثلاثة شروط. الأول تغييب حشفة أصلية كلها في قبل امرأة أجنبية وهو ما يسمى بالجماع ما يسمى بالجماع. الثاني انتفاء شبهة فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته. الثالث ثبوت الزنا إما بالشهادة وإما بالإقرار. طيب donc ici dans le hadith on a vu le témoignage de Omar radiallahu anhu alors qu'il était sur le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il a dit cela en compagnie des sahaba, des compagnons radiallahu anhum, et aucun des compagnons n'a de s'est opposé donc à ce qu'a dit ici Omar radiallahu anhu. طيب. Donc ici maintenant une faïda, un enseignement qui est bénéfique, les conditions de l'obligation de la lapidation, la peine égale de la fornication donc, sont de trois. Il y a trois conditions pour que la peine égale de la fornication puisse être appliquée. Première condition, tariyibu hashafatin asliya. Yani le fait que l'acte sexuel s'est avéré à travers le fait que l'homme a introduit yani, donc, son sexe dans celui de la femme, yani, mais qu'il ait introduit au minimum le gland. D'accord? Donc si le gland entier a été introduit dans le sexe féminin, que ce soit devant ou derrière, bien sûr, une femme qui lui est étrangère, on ne parle pas de son épouse ou autre, d'accord? Une femme qui lui est étrangère et avec laquelle il n'est pas marié, eh bien, on a ici la première condition. C'est ce qu'on appelle également en arabe el-jima'. C'est bon? Tayyib. Ash-shart thani, le fait qu'il n'y ait pas de doute. Il faut qu'il n'y ait aucun doute. Donc, on n'appliquera pas la lapidation, la peine légale, sur celui qui a eu un rapport avec une femme alors qu'il pensait que c'était son épouse. D'accord? Yani, il a eu un rapport avec une femme en croyant que c'était son épouse et puis il s'est rendu compte que non, c'était pas son épouse. Sur là, on n'applique pas la peine légale sur lui car il a fait cela par erreur, involontairement. C'est bon? Et la troisième condition, il faut que cet acte-là de fornication a été confirmé soit par des témoignages, soit par les aveux, soit par un aveu. D'accord? Alhamdulillah. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. Donc ça, c'est le cas donc de la personne qui est muhsan. Maintenant, si on a le temps, inshallah, on va parler de celui qui n'est pas muhsan, de celui ou celle qui n'est pas muhsan. وإن كان غير محسن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما وغرب عن وطنه عاما فقوله إن كان غير محسن وغير المحسن هو الحر الذي لم يتزوج أو تزوج ولم يجامع أو جامع في نكاح فاسد أو باطل أو جامع وهو صغير أو جامع وهو مجنون. Donc on a vu c'était qui le muhsan. Maintenant on va parler de celui qui n'est pas muhsan et qui a commis un acte de fornication. D'accord? Donc celui qui n'est pas muhsan, eh bien c'est celui, c'est la personne qui est libre et qui ne s'est pas encore mariée. D'accord? Quelqu'un de libre et qui n'est pas encore marié. Ou qui s'est marié, mais qui n'a pas encore eu de rapport sexuel. D'accord? Il a contracté un contrat de mariage, mais il n'a pas eu de rapport sexuel. Ou il a eu un rapport sexuel, mais après un contrat de mariage qui est nul, qui n'est pas valide. D'accord? Ou il a eu un rapport sexuel alors qu'il n'était pas encore pubère. Ou alors il a eu un rapport alors qu'il était fou et dénué de raison. C'est bon? Pareil. Ça, c'est celui qui n'est pas muhsan. Donc, celui qui n'est pas muhsan, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, c'est quoi sa peine légale? Eh bien, c'est la flagellation. Il sera fouetté de 100 coups de fouet. 100 coups de fouet. Et il sera banni de l'endroit où il vit durant une année entière. Il sera banni de sa patrie, Annie, durant une année entière. C'est bon? Ça, c'est celui qui a commis le péché de la fornication en étant ghayr muhsan, non muhsan. 100 coups de fouet et le bannissement, l'exil de sa patrie pendant une année. Voilà. C'est clair ou pas? Non. فقال الشيخ فأمر الله تعالى بالجلد في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلد والتغريب في حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه الآتي وتغريب الزاني هو أن ينفى عن بلده إلى بلد آخر يكون أبعد من مسافة القصر مدة سنة Donc, Allah تبارك وتعالى il a ordonné donc la flagellation dans le Coran al-Karim, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a ordonné également, donc la flagellation, et l'a ordonné également à Tahrir, l'exil, dans le hadith de Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu, que l'on va voir, inshallah. Donc, Tahrir al-Zani, donc l'exil du fornicateur, c'est qu'il soit éloigné, expulsé, banni, de sa patrie dans une autre patrie, donc on va le mettre, l'éloigner, il va aller dans une autre patrie, d'accord, notre terre, à une distance plus éloignée ou à une distance qui va faire que cela soit un voyage, c'est-à-dire une distance qui fait que la personne pourra notamment raccourcir ses prières. D'accord? Une distance qui permette le raccourcissement des prières. Donc celui qui sera exilé devra être exilé à une distance plus éloignée que celle-ci. D'accord? Taïeb? C'est bon ou pas? Non. Et pendant combien de temps? Durant une année. D'accord? Durant une année entière. Une année, selon le calendrier lunaire, bien sûr. Entière. Est-ce que c'est bon? واضح؟ نعم. طيب donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et lundi prochain, inshallah, nous verrons les conditions, d'accord? Nous verrons les conditions qui rendront obligatoire la peine légale de la fornication sur le fornicateur ou la fornicatrice. Et comme l'ont mentionné les juristes, Wallahu ta'ala, a'lam. والعلم عند الله آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.